tous et bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici et on est de retour après deux semaines de vacances bien méritées. On va parler du lancement d'élections, de slogans électoraux, de pancartes électorales, de dialogue jeunesse. Bref, on est prêt pour une émission des Attachés de presse. On est de retour, on est bien contents. À tout de suite. Bonjour Marco.
Salut Nick, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va super bien. Écoute, grosse émission aujourd'hui. Une heure qu'on parle d'élection. Puis
avant notre nouveau format qu'on va vous expliquer à l'instant même, c'est tout de même... on est quand même excités, pour vrai. Puisqu'on est habitué à un format d'une heure auparavant, bien évidemment. Mais maintenant, on est... En fait, on vous explique, on vous le lance en primeur. Là. C'est pas tant en primeur vu qu'on vient de commencer notre saison. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, à place d'avoir une émission d'une heure, on va avoir une formule de deux heures où est-ce qu'on va orienter toutes nos chroniques, tous nos temps à la campagne électorale provinciale qui s'en vient le 3 octobre prochain. On a divers projets, diverses idées, notamment de rencontrer... En fait, on va être transparent avec vous, on va essayer de tenter de... d'avoir, si je peux me permettre l'expression, des entrevues avec tous les candidats des cinq principaux partis, que ce soit de Richemont, Saint-François et de Sherbrooke. Ça fait beaucoup de candidats, on le sait, mais on s'engage à essayer du moins à le faire. On a déjà commencé nos invitations et pour nos demandes d'entrevues. Donc, on espère que ça sera positif. On va avoir des réponses positives pour tous les cas, mais bien évidemment, on est conscient que ça peut être un petit peu compliqué. Surtout en fin de campagne ou en début, bref. Mais on est prêt à se lancer là-dedans.
Exactement. Puis aussi, on a décidé de rajouter à ça. On va en discuter tantôt, puis on va l'élaborer de manière plus précise. Mais on va dresser une liste des 10 enjeux les plus importants qu'il y a à Sherbrooke. Donc, on va dresser une liste comme ça, puis on va faire une recherche par rapport à ces enjeux-là, justement. Puis évidemment, ben ces 10 enjeux-là, ben on va poser des questions aux candidats par rapport à ceux-là. Bon, évidemment, le lien Sherbrooke-Montréal, c'est quelque chose qui est inévitable. Évidemment, aussi, ben, tout ce qui a rapport avec la crise du logement, l'inflation, c'est des trucs qui vont revenir.
La place de l'école Montcalm, en fait, est-ce qu'on peut construire une nouvelle école secondaire à Sherbrooke, puisque là, ça devient prioritaire à l'heure actuelle. Puis ça a fait beaucoup les manchettes aujourd'hui, justement, où est-ce que Monsieur Weiss critiquait ouvertement Mme Labrie de son rendement là-dessus. Donc ça risque d'être de chauffer, si je peux me permettre l'expression, dans les prochains jours. Mais oui, il y a divers enjeux qu'on va porter, on va essayer d'expliquer mieux qu'on peut, puis... en espérant que vous allez être de la partie comme nous, puisqu'en campagne électorale, ben honnêtement, je ne suis jamais senti aussi excité, je peux me permettre l'expression, puisque ça fait déjà 4 ans qu'on n'a pas eu au Québec.
Ouais, exactement.
Il y a eu, en fait, quasiment, si je peux me permettre l'expression, comme s'il y avait eu une autre vie entre ces deux élections-là. Il y a eu une pandémie mondiale qui a un peu chamboulé la vie de tout le monde, je peux me permettre. Fait que bien intéressant cette campagne qui s'en vient.
Ouais, effectivement, puis c'est encore plus intéressant parce que Sherbrooke va être une plaque tournante des élections. Ça va être un comté qui va être extrêmement surveillé partout au Québec. Évidemment, ben il y a rien de gagné du côté de Québec solidaire ici. Justement, ce n'est pas pour rien que le lancement de leur campagne électorale s'est fait dans le coin. Évidemment, bon, ça s'est fait dans le comté de Saint-François, juste à côté, mais c'est pas pour rien qu'on a choisi Sherbrooke. C'est parce qu'on le sait que c'est un comté qu'on veut conserver du côté des solidaires, mais aussi on veut faire des gains du côté de Saint-François avec la candidature de Mélissa Généreux, qui est une ancienne directrice générale de la santé publique régionale ici en Estrie. Donc ça va être vraiment très intéressant. Puis même dans Saint-François, il y a des candidatures aussi quand même assez connues. Il y a M. Charon pour le Parti libéral, qui est très connu à Lennoxville. Puis aussi, évidemment, ben Mme Hébert aussi va vouloir conserver son poste pour un deuxième mandat. Puis ben ici, ben évidemment, ben pour la CAQ à Sherbrooke, évidemment, Mme Caroline Saint-Hilaire, qui est quand même quelqu'un de connu, ancienne mairesse de Longueuil et députée du Bloc québécois, aussi une ancienne analyste à la télévision pour l'émission La Joute. Donc, vraiment, là, une campagne qui va s'annoncer très excitante pour la région de l'Estrie. Là.
Je peux même me permettre, si on va dans la circonscription de Richemont, André Bachand va tenter un autre mandat au sein de la coalition Avenir de Québec, mais on a aussi un candidat relativement connu, même je pourrais même dire vedette de la région, en Philippe Pagé, maire actuel de Saint-Camille, une municipalité de la circonscription, où est-ce que Philippe a œuvré dans le milieu agricole, où est-ce qu'il y a quand même une certaine notoriété dans la région, donc ça risque d'être quand même intéressant pour la suite des choses. Puis aussi, faut pas l'oublier, puis il faut pas le mentionner, une partie de la circonscription de Richmond, pardonnez-moi, touche la ville de Sherbrooke, notamment essentiellement une partie de Rock Forest. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on veut couvrir une partie et inviter les candidats de cette circonscription, car ça touche quand même une partie de la population sherbrookoise, puis on se devait aussi d'aller aussi loin dans notre couverture médiatique, je peux me permettre.
Exactement.
Donc, où est-ce qu'on s'en allait? Est-ce qu'on a...
On pourrait enchaîner avec le déclenchement des élections.
Déclenchement des élections. Ce qu'on trouvait quand même intéressant de vous partager l'extrait, tant attendu que M. François Legault... l'extrait tant attendu, pardonnez-moi, où François Legault déclenche l'élection provinciale. À tout de suite, on vous laisse là-dessus. Puis on en revient dans un instant.
Bien, c'est une journée importante aujourd'hui. Une journée importante pour la démocratie. Donc, on lance un 36 jours de campagne où tout le monde va présenter ses idées. Et ça va être aux Québécois, à vous autres, à choisir votre député, votre gouvernement, puis votre premier ministre.
C'était François Legault dimanche dernier, alors qu'il annonçait officiellement le lancement de la campagne électorale 2022 comme on l'attendait, puisque c'était, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, c'était la première élection provinciale au Québec où on savait quelle était la date, puisque maintenant les élections au Québec, provinciales au Québec, sont maintenant rendues à date fixe. Donc,
oui, c'est la deuxième à date fixe.
C'est la deuxième à date fixe maintenant. Donc, une des premières où est-ce qu'on s'y attendait, on attendait que ça, que M. Legault déclenche son élection. Il a attendu à la toute dernière minute. Est-ce que c'était voulu? Je peux vous dire que oui, assurément. On le voit avec les différents sondages, avec les différents sondages, tout simplement, où est-ce que la coalition Avenir Québec est dans une classe à part à l'heure actuelle. On a bien hâte de voir comment ça va se dérouler, comment la campagne va se dérouler pour chacun des partis. Chacun a ses visions différentes, chacun a ses idées aussi différentes, ses trajets différents. Donc, on a bien hâte de voir comment ça va se développer tout ça, puis comment la coalition Avenir Québec va permettre, mais si la coalition Avenir Québec va continuer à garder sa notoriété, je peux me permettre, dans les sondages.
Oui, effectivement, tu le disais, la deuxième élection à date fixe. En fait, je vais expliquer un peu brièvement, je trouve ça important de revenir là-dessus pour bien saisir un peu c'est quoi les élections à date fixe. En fait, l'élection à date fixe doit avoir lieu le premier lundi du mois d'octobre. Donc, c'est inscrit dans la loi. Puis aussi, c'est inscrit dans la loi que la campagne électorale se doit de durer entre 33 et 39 jours. Donc, on le savait que cette semaine ou la semaine passée, il y allait avoir un déclenchement de la campagne électorale parce que c'est inscrit dans la loi. On peut pas faire campagne plus que 39 jours depuis que les élections sont à date fixe.
C'est relativement très court, si je peux me permettre. Là, en 2014, l'élection avait duré une cinquantaine de journées. Ça avait été très long comme campagne. Là, au moins, la loi électorale permet une campagne plus courte, là.
Ouais, permet une campagne plus courte. Cependant, ben, évidemment, ça a beaucoup fait les manchettes. Puis on a même discuté avec Mme Julie Saint-Arnaud-Drelais, porte-parole du DGEQ. Cependant, le fait que les élections sont à date fixe, ça permet de prévoir aux partis politiques, dans le fond, leur campagne électorale et surtout de faire de la publicité pendant la pré-campagne. On l'a pu voir, il y a même des partis qui sont allés faire des promesses, littéralement, qu'on a mentionné des choses. Le Parti libéral a littéralement dévoiler sa plateforme, c'est au mois de juin, peu de temps après la dissolution de la Chambre, mais la fin de la dernière session parlementaire. Donc, vraiment, là, ça permet au Parti libéral de se préparer d'avance, puis après ça, de faire des commerciaux, de faire de la publicité pour le parti en question, puis évidemment, tout l'été, on en a parlé. On est en campagne électorale depuis déjà deux mois. Là.
Ça venait de pair, en fait. Pour être honnête avec vous, fallait que ça commence parce que on était en pré-campagne, mais là, on est-tu en pré-campagne vraiment? En fait, ce qui peut maintenant changer de, si je peux me permettre l'expression, d'une phase à une autre, pré-campagne à campagne, il y a bien sûr l'idée de, OK, on lance l'élection. François Legault l'a fait dans son discours dimanche, mais il y a l'ajout des pancartes électorales que, maintenant, on peut plus s'en peut plus l'oublier là, que c'est l'élection là. Tout le monde a placé ses pancartes, il en reste peut-être quelques-unes à installer, mais la majorité est faite, surtout à Sherbrooke. On va pouvoir l'analyser tout à l'heure dans une des chroniques qu'on va réaliser tout à l'heure, mais ce qui on est maintenant en campagne électorale.
Oui, effectivement, puis on l'a même vu aussi avec les slogans déjà. Souvent, les slogans sont dévoilés le jour même de la campagne. Là, on les a vus. Le Parti conservateur l'a dévoilé très tôt. Par la suite, bon, ben, les autres partis les ont dévoilés dans les derniers jours, dernières semaines. Mais vraiment, j'ai hâte de voir quelles vont être les recommandations du directeur général des élections à la fin de cette élection-ci, puisque ceux-ci, ben, en fait, le directeur général des élections veut attendre la fin des élections et l'élection d'un nouveau gouvernement pour émettre ses recommandations par rapport à l'encadrement au niveau préélectoral. Vraiment, parce que c'est en fait les dépenses sont pas encadrées là. Les partis peuvent dépenser comme ils veulent l'argent, mais puis l'argent là, inquiétez-vous pas, c'est pas l'argent des fonds publics, c'est l'argent des partis qui proviennent des dons, mais qui proviennent aussi du financement public des partis politiques, parce que bon, comme on le sait, à chaque fois qu'on va voter pour un parti, ben on le finance publiquement, c'est 1,60 $, 1,70 $ là, par année pour le vote qu'on a donné à notre parti politique qu'on a décidé de voter. Vraiment, c'est juste avec cet argent-là que les partis peuvent dépenser de l'argent, mais on l'a vu, là. Il y avait une iniquité, là, entre les partis parce que c'était pas encadré. La CAQ avait, juste sur les réseaux sociaux, là. Réseaux sociaux. La CAQ avait dépensé, là, pendant la pré-campagne, là, 40 000 $, tandis que les autres partis combinés ensemble, ça donnait le montant de la CAQ dépensé. Il y a quand même une iniquité, là.
Il y a un problème, là. On voit déjà je peux me prendre l'anglicisme, pardonnez-moi, un red flag, là, sur cette manière d'encadrer après campagne. Il manque des balises, là.
Oui, puis après ça, on peut aussi rentrer là-dedans les groupes de pression qui avaient déjà commencé aussi à faire des publicités. On peut penser à celle de la FTQ, là. On en a plein de notre casque, aussi. Puis aussi, ben, après ça, au niveau des conservateurs aussi, ben Québec Fier, qui est un groupe de pression qui a fait un peu de la pub aussi pour les conservateurs de manière indirecte. Là on parle plus de partage de publications Facebook. Les mêmes publications se retrouvaient à la fois sur les deux pages. Des citations de M. Duhaime se retrouvaient sur le site de Québec Fier aussi. Donc, vraiment, là, des trucs qui restent vraiment encadrés, qui se doivent de l'être, et en espérant, pour le bien de la démocratie, pour l'équité entre toutes les parties, ben, que ce soit réglé pour la prochaine élection qui devrait avoir lieu dans 4 ans.
Super intéressant, Marco. Merci beaucoup. On s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on revient pour de nouvelles analyses, de nouvelles chroniques sur la prochaine campagne électorale qui s'en vient. C'était les attachés de presse sur CFA 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Un sujet qu'on voulait discuter ensemble, moi et Marco, aujourd'hui, c'est par rapport au débat de l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, le dialogue jeunesse qui a eu lieu tout récemment. Marco l'a analysé, l'a décortiqué, il a pris beaucoup de notes. J'ai hâte d'entendre ses notes. Mais oui, Marco, avec une première impression, comment tu as trouvé ce dialogue-là, puis qu'est-ce que tu peux sortir de certains éléments de ce débat-là? Là?
Ben, en fait, j'ai vraiment apprécié la formule. C'est pas une formule au niveau de débat, c'est vraiment un dialogue où est-ce que le modérateur, dans le fond, qui était M. Miles, qui est directeur du Devoir, dans le fond, c'est lui qui animait, dans le fond, cette soirée-là. On posait une question qui était pigée totalement au hasard, puis ensuite, ben, on la posait à la personne à qui c'était le tour de répondre. Puis vraiment, là, ça a donné droit à vraiment des questions surprenantes envers des partis. Puis ça a des réponses aussi très intéressantes, puisque ça aurait pu arriver, par exemple, que ben, le Parti libéral, mais Mme Anglade, se retrouve avec une question sur l'indépendance du Québec. Ça aurait pu arriver. Mais c'est pas arrivé, mais ça aurait pu.
Une formule intéressante qui permet de limiter la cacophonie d'un débat, j'imagine, parce que souvent, comme on voit dans les débats télévisés classiques, que ce soit sur TVA ou Radio-Canada, souvent c'est celui qui parle le plus fort qui se fait entendre, exactement, ce qui vient un peu limiter, je pourrais dire, la qualité du débat.
Exactement, puis ben la personne qui est perdante là-dedans, ben c'est l'électeur et l'électrice. Donc vraiment, ce que j'apprécie de tout, c'est que, étant donné qu'on laissait justement les chefs répondre aux questions, puis qu'il n'y avait pas de tir entrecroisant entre eux, ben ça permettait aux gens vraiment de bien comprendre ce que les partis proposaient en lien avec la question qui était posée.
Puis sinon, est-ce que faut quand même le noter, puis on tu sais, ça a été notamment critiqué ou ben ça a été mis de l'avant. Le seul chef qui n'était pas présent, c'était M. François Legault de la Coalition Avenir Québec.
Ouais, exactement. Puis évidemment, bon, ben, les quatre chefs en ont fait mention dans leur discours d'ouverture. Vraiment, là, c'était omniprésent là, pour toutes les parties. Puis, le même exercice avait eu lieu en 2018, puis M. Legault était présent. Donc, est-ce que son absence en 2022 veut dire que la jeunesse n'est pas nécessairement une priorité pour lui? Est-ce que les enjeux de la jeunesse l'intéressent réellement?
Est-ce qu'il y avait juste un problème d'agenda? Est-ce que, pour un débat avec d'autres chefs, j'imagine qu'on peut faire une place pour ce genre d'exercice?
Oui, mais ça, c'est prévu d'avance.
C'est peut-être mon côté éditorial qui est là-dessus, un peu critique d'une l'absence d'un premier ministre sur le débat jeunesse. Peut-être que c'est moi aussi, là, je sais pas, on n'est pas dans les souliers de monsieur Legault. Mais c'est vrai que ça fait jaser, puis on se demande un peu pourquoi. Là.
Exactement. Mais c'était vraiment une expérience qui devrait être répétée plus souvent, qui était vraiment très pertinente.
Sinon, est-ce que tu as des éléments, est-ce que qui a sorti du lot, je peux me permettre, est-ce que c'est un petit peu trop risqué comme question ou est-ce que tout le monde a été tout le monde a été d'un certain même niveau ou bien il y a vraiment quelqu'un qui est sorti du lot?
Ben moi, honnêtement, j'ai vraiment été très surpris par la performance de Paul Saint-Pierre Plamondon. Honnêtement, pour l'avoir vu faire des discours pendant la chefferie au Parti québécois, j'ai vraiment vu que celui-ci habitait maintenant la scène, il était très à l'aise pour parler en public. Cependant, bon, ben, la critique qu'on peut peut-être faire, c'est qu'il n'a pas nécessairement l'étoffe d'un chef. Mais ça reste un peu personnel. Mais vraiment, je l'ai vraiment vu habiter la scène. Je l'ai vraiment vu être proche des gens dans ses interventions. Même chose pour M. Nanot-Dubois, qui, bon, partait déjà favori, là, un dialogue sur la jeunesse avec des jeunes dans la salle. On le sait que les jeunes ont une préférence pour Québec solidaire. Donc, mais lui aussi, évidemment, habiter la scène, a répondu aux questions de M. Saint-Pierre Plamondon aussi. Du côté de Mme Anglade, je trouvais que, en fait, tout le long des réponses qu'on Mme Anglade faisait, c'est soit on faisait référence au projet ECO, qui est le projet fort du Parti libéral, là, pour écologie et économie, ou soit qu'on faisait une analyse de la réponse à la question sans nécessairement proposer des choses. Donc, c'est vraiment la critique que j'ai à faire pour Mme Anglade. Puis sinon, mais pour M. Duhaime fait comme à l'habitude, là, comme il le fait à chaque, dans le fond, présence publique. Bon, on rappelle des libertés individuelles, etc. Puis vraiment, bon, on le voit aussi que c'est quelqu'un qui est habitué au niveau de la communication.
Le Parti conservateur du Québec ne fait pas mauvaise figure auprès des jeunes. Si on se fie au sondage, ce qui pour certaines personnes peut être surprenant. Donc, si tu me dis que M. Duhaime a bien performé à ce débat-là, ça pourrait peut-être être une belle opportunité pour le Parti conservateur du Québec.
Oui, mais il a bien performé. Et honnêtement, il a fait passer la ligne message de son parti, qui est son slogan. Donc, il a parlé beaucoup de liberté dans ses réponses. Puis aussi, ben, je vais le décortiquer, mais ce que je vais faire, dans le fond, poser les thèmes de chaque question puis dire ce que les chefs ont dit par rapport à ça. Puis je vais commencer avec M. Duhaime, justement. Puis pour justement la première question, ça, j'ai trouvé ça quand même assez bizarre comme réponse parce que la question était sur la désinformation puis les discours haineux sur les réseaux sociaux puis aussi ben la perte de confiance envers les institutions publiques.
Une question qui vient toucher, selon certains analystes, certains experts, je pourrais dire les électeurs cibles du Parti conservateur du Québec. M. Duhaime ne le dit pas en public. Il nie totalement cette connexion, je peux me permettre, entre ces deux types d'électeurs. Mais selon certains analystes, la liaison est là, la corrélation est là.
Exactement. Puis pour ce qui est de la réponse, justement, qui était plus « qu'est-ce que vous proposez, dans le fond, pour baliser? » Parce que on le sait qu'il y a beaucoup d'élus qui ont reçu des menaces de mort. Là. Ça a fait les manchettes aussi. Là. Peu importe les partis qui reçoivent des menaces de mort, puis que ça joue aussi sur la santé mentale aussi, puis sur les proches aussi, dans le fond, des gens qui sont en politique. Mais ce qui est ressorti au niveau de la réponse de M. Duhaime, c'est que, selon lui, les institutions démocratiques devraient refléter la réalité du Québec. Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que, étant donné que les institutions devraient refléter cette réalité-là, qu'il y a des gens qui devrait avoir la parole et être élu au Parlement. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est que il veut des personnes qui sont conservatrices à l'Assemblée nationale pour faire bouger des choses, pour que ça représente tout le monde, parce que il le mentionnait aussi dans sa réponse. Selon lui, les partis d'opposition, ben faisaient qu'un avec le gouvernement. Là. Donc du côté-là, puis aussi, ben dans le fond, ça ressemblait à ça. Donc me faire élire et rassembler les Québécois, c'est ça que j'ai pris comme note là pour cette question-là. Sinon aussi, excellente question aussi qui lui a été posée sur la décroissance économique et l'option à envisager pour combattre les changements climatiques. Donc évidemment, bon, connaissant M. Duhaime, dû à ses positions idéologiques, évidemment, il a répondu que la décroissance n'était pas l'option et qu'on devrait utiliser justement la croissance économique via l'innovation et les nouvelles technologies pour régler cette question-là. Cependant, on peut être contre la solution qui est proposée. C'est le seul parti qui propose pour la lutte au changement climatique puis aux hydrocarbures d'exploiter le pétrole et le gaz au Québec afin d'utiliser cet argent-là afin de financer l'électrification des transports.
Comme on le voit dans les pays scandinaves, notamment la Norvège qui le fait. C'est leur manière économique et de faire pour... limiter l'empreinte écologique, notamment.
Ouais, exactement. Mais c'est exactement cet exemple-là qu'ils utilisent. Ils parlent littéralement de la Norvège qui utilise ça. Puis on sait au Québec, les normes, si on veut exploiter ou explorer, sont extrêmement strictes. Mais cependant, il n'y a pas réellement d'acceptabilité sociale pour exploiter ces ressources-là au Québec. Puis c'est ce qui est quand même très comprenable, là, dû évidemment, aux impacts environnementaux que ça peut avoir là, à court, à moyen et long terme. Là.
Puis ça, c'est sans mentionner les catastrophes qui peuvent arriver, là, comme on a pu voir avec Deepwater Horizon, par exemple.
Exactement. Puis aussi, ce qui amenait aussi comme argument aussi pour exploiter nos propres ressources, c'est qu'on pourrait aussi aider nos alliés, en l'occurrence là, les pays européens, pour les empêcher de repartir, si tu veux, les usines à charbon, là, comme on fait un peu en Allemagne, là. En ce moment, parce qu'évidemment, bon, ben la Russie a coupé littéralement les vivres à plusieurs pays là, au niveau du gaz naturel puis du pétrole. Là. Donc, pour lui, en exploitant notre pétrole, on pourrait financer l'électrification des transports, donc réduire à la cour, ben en fait plus à moyen et long terme, évidemment, bon, ben, les hydrocarbures au Québec, puis aussi ben aider nos alliés puis que ça soit un moteur de développement économique. Là. Mais c'est pas surprenant de la part de M. Duhaime d'affirmer cela. Là. En fait, c'est le seul parti aussi qui affirme vouloir exploiter, dans le fond, ces ressources naturelles-là au Québec. Là. Donc, troisième question qui a été posée, c'est par rapport aux garderies. On sait qu'au Québec, le réseau des garderies, le CPE, éprouve énormément de difficultés. Il y a 51 000 ou 52 000 enfants sur la liste d'attente pour une place en CPE, ce qui est énorme.
C'est énorme.
Puis, la CAQ s'est engagée, il y a 4 ans, à réduire la liste d'attente. Puis, littéralement, la CAQ, pour l'élection qui s'en vient, a fait la même promesse que il y a 4 ans. C'est la même promesse, là. Donc, il n'y a pas de changement. Le problème n'a pas nécessairement été réglé. Bon, c'est sûr qu'il y a eu une pandémie, puis ça a retardé les choses. Mais le problème n'a pas nécessairement été réglé. Puis là, ça a aussi la pénurie de main-d'œuvre, aussi dans le secteur public. Donc, pour lui, la solution pour pour ce qui est des garderies, évidemment, ben, pour lui, ce qui est important, c'est que chaque Québécois puisse avoir une alternative. Parce que pour lui, tous les Québécois, étant donné qu'ils paient impôts et taxes, ben, qu'il y ait accès à ce service public-là. Puis d'autres non, pour lui, c'est une iniquité. Donc, lui propose, un peu comme l'ADQ proposait, là, voilà une vingtaine d'années, pour lui, il propose, en fait, de renvoyer de l'argent aux familles. Mais ce qui m'a surpris, c'est que, en fait, c'est peut-être juste la formule qui a été employée par M. Duhaime qui a été, en fait, mal choisie, parce que lui, il expliquait que, étant donné que les Québécois paient trop d'impôts et de taxes, on va envoyer un chèque imposable. Ce que je trouvais qui était un peu bizarre, là, étant donné qu'on mentionne qu'on paie trop d'impôts et de taxes, mais on va envoyer un chèque qui va être imposable, donc par semaine, par enfant. Donc, tu sais, c'est vraiment, M. Duhaime croit que les gens paient trop d'impôts et de taxes. Je comprends qu'on pourrait diminuer les impôts, mais on pourrait aussi donner juste un chèque qui n'est pas imposable pour aider les familles. Donc,
La formulation était peut-être mal utilisée.
Ouais, était peut-être mal choisie. Mais dans le fond, ben, ce qu'on propose, dans le fond, pour essayer, dans le fond, de désengorger, si tu veux, la liste d'attente pour les CPE, pour les garderies publiques, c'est d'envoyer un chèque de 200 $ imposable par semaine, par enfant.
Ça, c'est pour que les parents continuent leur... et restent à la maison pour pouvoir... garder leurs enfants vu qu'ils n'ont pas de place en garderie, c'est ça qu'on propose.
Ou ben oui, pour que les parents puissent rester à la maison ou que les parents puissent trouver une alternative au privé, tu sais, via
ça. À ce moment-là, oui.
À ce moment-là, ou trouver une alternative au privé. Puis ça, M. Duhaime, il a raison de le mentionner. Il avait mentionné dans sa réponse là, qu'évidemment, bon, le 9 à 5 là, des CPE, ça convient plus à tout le monde avec l'avenue du télétravail qui est de plus en plus populaire. Là. C'est une nouvelle réalité. Puis ça, ben, je pense qu'on peut pas, on peut pas être contre là, sur ce point-là au niveau que c'est plus tout le monde au Québec qui fit, entre guillemets, dans le 9 à 5 à cause du télétravail, puis qu'il faut qu'on trouve des alternatives. Donc, au niveau de ça, c'était ça. Donc, un 200$ qui va être imposable par enfant. Puis ça fait le tour pour les garderies.
Sinon, quelles ont été les questions qu'on a posées à Mme Anglade lors du débat de. Lors de ce
dialogue.
Dialogue, pardonnez-moi.
Ben, en fait, on a posé la question. En fait, elle est tombée sur la question sur le système de santé et son efficacité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Bon, ça fait 20 ans qu'on parle du système de santé. 30 ans, si. En fait, depuis dans le fond,
notre système de santé. Non, on fait des blagues, mais oui, ça fait longtemps qu'on en parle.
Ouais, ça fait longtemps qu'on en parle, puis vraiment, bon, ben, sa réponse, honnêtement, c'est un classique, là. Puis je crois que, comme tous les Québécois, là, on y croit peut-être un peu moins, là. Des médecins de famille pour tous, avoir accès à un médecin de famille, avoir des soins universels au niveau de la santé mentale, plus de ressources, plus de médecins, plus d'infirmières en première ligne. Là, je crois que c'était 1000 médecins puis 3000 infirmières qu'on proposait. Mais honnêtement, là, ça serait comme de dire qui serait contre la vertu.
c'est une cassette.
C'est une cassette. Toutes les parties ont, évidemment, vont proposer ça, là, des médecins de famille pour tous, là. Vraiment, là, c'est pas nouveau, là. Puis bon, ben, maintenant, reste à savoir comment le faire, là, ce qui n'a pas été élaboré. Ensuite, la question sur la commission Laurent. La commission, dans le fond, présidée par Mme Régine Laurent, qui a été mise sur pied après le drame qui s'est passé près d'ici, là, à Granby. Sur l'enfant là, qui a été maltraité puis ensuite qui est décédé suite à ses blessures infligées par sa belle-mère, là, entre autres. Là. Bon, du côté, ce qu'on propose, là, c'est de mettre en place toutes les recommandations du rapport de Mme Laurent. Donc, c'est ça la proposition là, pour améliorer la qualité de vie des gens qui vivent au sein, dans le fond, d'ADPJ, puis qui sont en famille d'accueil. Là, donc,
ceux qui ont des problèmes avec leur famille d'accueil ou qui sont pas en sécurité.
Oh, oui, exactement. Il faut améliorer la condition de vie des centres jeunesse. Là, puis pour ça, j'ai regardé un documentaire qui a été fait par M. Paul Arcand, là, Les voleurs d'enfance. Là. Puis ça a été fait en 2005-2006. Là. Puis on peut le voir aujourd'hui. Là, il n'y a pas eu grand changement là, au niveau de l'amélioration des conditions de vie des centres jeunesse. Là. Vraiment, des fois, il y a encore des clôtures barbelées. Vraiment, là, on se demande des fois si c'est pas des mini-prisons, là, si je peux m'exprimer ainsi. Là, vraiment, là, de l'extérieur, là, ça a l'air tellement des bâtiments qui sont encore délabrés que l'État n'a pas nécessairement pris soin et financé assez.
C'est un des sujets souvent, malheureusement, qu'on discute, qui n'est pas en avant-plan dans la scène médiatique.
Exactement. Ensuite, Mme Anglade s'est fait questionner sur les projets pétroliers. Qu'est-ce que le Québec devrait faire si le Canada veut imposer un projet pétrolier qui passerait sur le territoire du Québec? Puis, on n'a pas réellement répondu à la question. On a plus fait une analyse parce que évidemment, bon, on le sait qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour qu'il y ait un gazoduc qui passe sur le territoire du Québec. Mais elle a plus répondu en faisant la promotion de son projet ECO, le plan ECO qui est pour écologie et économie. Donc, on n'a pas réellement répondu à la question. Cependant, en conclusion, très rapidement, on est arrivé là avec des propositions par rapport au projet pétrolier canadien. Ben, pas au projet pétrolier canadien, mais au projet, en fait, d'hydrocarbures au Québec, là, qui répond pas à la question en plus. Donc, on parle de réduire de 45% les hydrocarbures au Québec, puis ben électrifier les transports via l'hydrogène vert. Là. Donc, vraiment, là, ça fait vraiment partie de cette plateforme-là, là, l'hydrogène, là, pour ce qui est du Parti libéral. Puis, ben la carboneutralité d'ici 2050.
Je sais pas pourquoi cette comparaison me vient en tête maintenant, mais on dirait que le projet ECO vient un peu remplacer le plan Nord de M. Charest. Non, on dirait que...
Mais en fait, c'est Génial Québec 2.0.
Tu sais, mon avis, je sais pas pourquoi il fallait que je le partage. On dirait qu'il y a le Parti libéral prend encore une fois son projet, un projet très spécifique pour mettre de l'avant sa plateforme, les valeurs du parti là, au sein de la population québécoise.
Exactement.
Sinon, je veux en entendre parler sur la prestation de Paul Saint-Pierre Plamondon. On se rappelle, le Parti québécois à l'heure actuelle ne va pas très bien niveau sondage, mais Saint-Pierre Plamondon s'entête à dire on part en négligé, mais on va bien finir. Comment il a été lors du dialogue?
Il a quand même très bien répondu aux questions. Vraiment, on a apporté des solutions concrètes. On n'a pas expliqué le comment, par contre, mais on a fait des propositions, ce qui était souvent l'objectif de la question. Comme pour la première question, qui est en lien avec le manque de logement social, la hausse des loyers et la gentrification. Vraiment, la question était, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, du côté du Parti québécois, ce qu'on propose, c'est évidemment reconnaître qu'il y a une crise du logement, ce que le gouvernement de la CAQ a tardé à faire. Ensuite, on veut augmenter l'offre des services, augmenter l'offre des logements sociaux. On veut en construire pour le Parti québécois 5 000 par année. On veut freiner la bulle immobilière en taxant les investisseurs étrangers. Puis évidemment, baliser, mettre des lois en lien avec la spéculation pour éviter les surenchères là, des maisons. Là, ce qu'on a vécu là, pendant deux ans de pandémie. Là.
Un an et demi à la suite du 13 mars 2020, ouais. Oui, je me rappelle.
Puis ça a des conséquences néfastes. Là. Des gens qui paient trop cher pour leur maison, ensuite la valeur descend. Donc, quand ils vont la vendre, ils vont perdre de l'argent, ils ne vont pas faire de profit. Souvent, quand on achète une maison, c'est éventuellement pour faire du profit. Puis après ça, vient aussi la question des taux d'intérêt aussi. Le paiement mensuel pour les hypothèques aussi qui va augmenter. Que souvent, des gens avaient surenchéré sur des maisons pour avoir un logis, pour rester, mais là, qui ne seront plus capables de payer à cause de ça. Donc, vraiment un enjeu qui va être important à surveiller pour les prochains mois. Du côté aussi du Parti québécois, on a en fait été questionné sur la parité homme-femme dans les sociétés d'État, dans les conseils d'administration et dans les partis politiques. Du côté du Parti québécois, on aimerait légiférer pour que les femmes soient plus présentes dans les CA, dans les conseils d'administration des compagnies, mais qui sont cotées en bourse. Pour ce qui est des sociétés d'État, c'est déjà en place. Il existe déjà des lois. Puis aussi, du côté du Parti québécois, ce qui est important, on veut passer l'équité salariale de 10 à 0%. Donc, pour que le salaire, dans le fond, par métier, soit semblable. Donc, exemple, on sait que le domaine de la santé, surtout pour les infirmiers, surtout des femmes, donc des infirmières, mais on veut qu'elles gagnent le même échelon de salaire que dans un domaine que c'est principalement des hommes. Pour qu'il n'y ait pas de discrimination, puis qu'il y ait vraiment une égalité salariale.
Comme on voit, les hommes pratiquent en général, puis là, on a toute proportion de garder des emplois plus payants, puisqu'on peut penser à tout ce qui est le monde de l'ingénierie, le monde, je pourrais dire, tout ce qui est par rapport à la construction, plus les travaux de type manuel pratique, au détriment des femmes qui, eux, vont pratiquer des emplois du type, par exemple, dans le domaine de l'éducation, de la santé, comme tu viens de le mentionner, en infirmerie. Oui, il y a des décalages à sauvegarder, ça, c'est sûr.
Oui, exactement. Puis, l'autre question aussi qui a été posée à M. Saint-Pierre Plamondon, qui est très intéressante, en fait, qu'on lui a posé une question sur le décrochage scolaire. On le sait qu'avec la pandémie, beaucoup de gens se sont retrouvés en ligne. C'était difficile. T'sais, même pour nous, on l'a vécu là, à l'université. Là, c'était très difficile, les cours en ligne. Là, c'était extrêmement pénible. Là. Puis on est des adultes. Là. Imaginez là, des enfants de secondaire. Là.
C'était une catastrophe pour beaucoup, là, honnêtement. Là.
Donc, lui, dans le fond, M. Plamondon, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qu'il propose pour lutter davantage contre le décrochage scolaire, au secondaire, ce qu'on vit, c'est l'accès aux programmes sport-études gratuits. Donc, pour tous, souvent, on le sait que le sport et les études convenus ensemble, ça va faire augmenter les résultats scolaires. Moi, j'ai pu le voir dans mon école secondaire avec le programme football, qui n'existe plus d'ailleurs, mais il y avait des jeunes, qui, sans ce programme-là, n'auraient sûrement pas été au cégep ni à l'université. Ils n'auraient pas davantage contribué à la société. Donc, on veut rendre les sports et études gratuits. Bon, évidemment, on veut avoir un meilleur ratio professeur-élève. Là, on sait que le ratio professeur-élève,
c'est compliqué.
C'est compliqué, mais c'est environ 1 pour 30. Là. C'est énorme.
C'est un immense enjeu qu'on le voit depuis à travers les années. C'est qu'il manque de profs. Donc, il manque de profs, des classes plus grandes. C'est un cercle vicieux vraiment toxique pour l'éducation en général.
Là. Exactement. Donc, on veut diminuer le ratio prof-élève là, pour, évidemment, bon, ben, aider les élèves, évidemment. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, qu'est-ce qui était proposé pour le, en fait, l'étudiant post-secondaire? On aimerait ça, au Parti québécois, rendre les soins de santé mentale accessibles pour tous au niveau public. Donc, la gratuité pour les gens qui sont au cégep et à l'université. Ce qui est quand même intéressant.
Finalement, on pourrait parler de la prestation de Gabriel Azoulou. Tant qu'à avoir fait un portrait des trois autres personnes, il faut bien terminer avec le tout.
Oui, exactement.
Comment il a performé? Je peux me permettre encore une fois
Ben évidemment, bon, ben comme je l'ai mentionné en introduction, M. Nadeau-Dubois était devant un public majoritairement en sa faveur. Là. Évidemment, dans le dialogue jeunesse qui avait lieu à l'Institut du Nouveau Monde. Non, qui avait lieu à l'Université Concordia. La première question, c'était sur la réconciliation avec les peuples autochtones.
Une question quasiment lancée à balle donnée, si je peux me permettre.
Oui, à balle donnée, parce qu'évidemment, bon, c'est la partie, je crois, il y a 5 candidats, candidates qui sont d'origine autochtone.
Mais aussi qui promouvoient cet enjeu-là de manière très, très concrète, là, si on peut comparer avec les autres partis à l'heure actuelle.
Oui, exactement. Puis ce qu'on propose, dans le fond, pour dans le fond accélérer cette réconciliation-là avec les peuples autochtones, évidemment, c'est un dialogue d'égal à égal. Ça a été souvent mentionné. Donc, on a répété un peu le message qu'on essaie de passer. Aussi, on veut laisser davantage les peuples autochtones décider quoi faire. Évidemment, du côté Québec solidaire, on veut pas imposer une décision. On aimerait que le choix vienne de eux. Aussi, on veut l'application du principe de Joyce et Chacoan pour, en fait, enrayer le racisme systémique. On aimerait le mettre plus qu'au niveau de la santé. On veut le mettre partout, dans toutes les sphères de la vie publique. Puis aussi, ben, une reconnaissance du statut de particularité au niveau des langues, puis des droits linguistiques associés aux droits autochtones qui, dans le fond, n'est pas présent dans la réforme de la loi 101, de la loi 96, là, qui est vraiment pas oublié.
Ça a été une critique de Québec solidaire par rapport à la loi 96, justement. Ils l'ont signé, selon les paroles des co-porte-parole, ils l'ont signé, ils l'ont accepté, voté pour la loi 96, mais ils ont annoncé que s'ils étaient au pouvoir, ça allait être le premier élément à ajouter et à modifier rapidement. Ça a été dit, là, clairement.
Oui, ça a été mentionné. Puis même aussi, l'autre question qui était posée, c'est une question que, évidemment, c'est dans la plateforme, littéralement. C'était pour améliorer l'intégration des immigrants. Il y avait une question là-dessus. Qu'est-ce qu'on proposait du côté des solidaires? Ben, du côté des solidaires, ce qui est important de comprendre, c'est que pour eux, l'intégration des immigrants passe par le milieu du travail. C'est là que les immigrants vont passer plus de temps. Donc, pour eux, ce qui devrait être important, c'est qu'il y ait des cours de francisation qui sont offerts dans les milieux de travail pour les immigrants et que ceux-ci soient rémunérés quand même. Donc, une augmentation des dépenses du côté des cours de francisation ici. Aussi, on veut régionaliser l'immigration en créant un carrefour régional d'immigration pour que qu'il y ait de plus en plus d'immigrants en région qui soient moins concentrés à Montréal. Puis, du côté culturel, ben, on aimerait, pour les nouveaux immigrants, ben, c'était pas vraiment clair, mais c'était mentionné comme si, là, on aimerait que les nouveaux immigrants embrassent davantage la culture québécoise. Donc,
ça sent plus à leur place, si on peut le déchiffrer ainsi.
Ouais, mais il n'y a pas réellement de proposition par rapport à ça. Donc, c'était vraiment, ça a juste été mentionné. Puis, ça va être davantage à questionner les candidats de Québec solidaire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par on aimerait que les immigrants embrassent la culture québécoise, là. Donc, ça va être à spécifier.
Sinon, pour conclure, comment t'as trouvé l'exercice? Tu sais, t'en as glissé un mot tout à l'heure, mais est-ce que ce genre d'exercice devrait être refait sur différents enjeux plus spécifiques, j'imagine?
Ben, en fait, étant donné que c'est un dialogue jeunesse, les enjeux étaient très spécifiques. Là. Il y en a quelques-uns qu'on n'a pas abordés là, parce qu'on va manquer de temps. Tu sais, M. Duhaime était questionné sur la fronderie Horn. Ensuite, on était questionné sur l'accès à propriété des jeunes du côté du Parti québécois. Aussi, sur le transport. Évidemment, c'est un enjeu, le transport en commun. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamont est questionné là-dessus. Madame Anglade aussi. Sinon, du côté des solidaires aussi, on a été questionné sur la participation citoyenne des jeunes, comment qu'on peut la stimuler, l'encourager. Du côté des solidaires, pour eux, bon, on veut descendre l'âge légal pour voter à 16 ans. Bon, je vois pas en quoi ça pourrait augmenter la participation des jeunes parce qu'on va voter plus tôt, là. Le problème n'est pas réellement là. Puis aussi, on veut parler des enjeux qui préoccupent les jeunes. Donc, c'est vraiment, genre, très ciblé. Puis aussi, on était questionné, évidemment, sur le transport actif et collectif. Puis du côté de Mme Anglade, on était aussi questionné, comme je l'ai mentionné, sur les transports en commun. Puis sur la liberté de parole dans les milieux universitaires. Donc, c'est vraiment des enjeux qui touchent la jeunesse. Puis, ça aurait été vraiment un bon moment pour M. Legault pour transmettre des messages à la jeunesse à ce moment-là. Parce que toutes les questions avaient lieu avec des préoccupations qui occupent les jeunes. Et honnêtement, ça m'a permis, puis je crois que ça l'a permis à beaucoup d'entre eux qui étaient présents ou qui l'ont écouté, de connaître davantage la position des partis, même si, par exemple, Québec solidaire partait avec une longueur d'avance dans ce format-là. Mais honnêtement, on a appris à découvrir la position de M. Duhaime, qui est pour les jeunes, celle de Mme Anglade, puis celle de M. Saint-Pierre par mon tour davantage. Donc, j'espère que c'est un exercice qu'il va réavoir dans 4 ans et que tous les chefs des partis politiques vont y assister.
Moi, tu as glissé le mot tout à l'heure, c'était le bon exercice pour inciter les jeunes à s'intéresser à la politique.
Un dialogue, pas un débat, un dialogue.
Tu sais, à discuter, à vraiment parler des enjeux qui touche les jeunes, tu sais. Je peux même dire nous, parce qu'on est jeunes, puis le fait que le premier ministre ne se présente pas à ce genre de dialogue, bref, peu importe les raisons, puis c'est, tu sais, on n'est pas en train de juger pourquoi le monsieur premier ministre n'était pas là, pourquoi monsieur Legault n'était pas là, mais ça marque quand même un message clair. Surtout en début, mais là, c'est en fin de pré-campagne, alors, à ce moment-là, quand le dialogue a été diffusé, mais ça marche quand même un message que je trouve assez clair et assez, je pourrais dire, un peu décevant dans la mesure où est-ce que les jeunes votent beaucoup moins, où est-ce que l'implication politique est beaucoup moins chez les jeunes qu'auparavant, et dans une période où est-ce que le cynisme politique prend de l'ampleur. Bref, M. Legault aurait dû être là.
Exactement.
Sur ce, tout le monde, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on discutera de slogans et de pancartes électorales. C'était les attachés de presse sur les ondes de CFA 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, notre émission de politique hebdomadaire sur les ondes de CFAQ 88.3. On est maintenant rendu à discuter de slogans et de slogans, mais aussi de pancartes plus tard. Les slogans, c'est important en politique. Ça peut paraître banal, mais ça rallie les gens à une cause, tout simplement. Puis là, maintenant qu'on a la campagne est lancée, on a les slogans de tout le monde. Est-ce que on voulait quand même discuter d'une partie d'une entrevue qu'on avait eue avec Monsieur Pierre-Olivier Saint-Arnaud qui nous parlait de communication persuasive. Je ne sais pas si vous voulez en glisser un mot, Marco.
Ouais, exactement. Mais on va mettre on va introduire un peu cet extrait-là. Avec Monsieur Saint-Arnaud, on avait discuté l'importance des slogans en politique. Lorsqu'on avait discuté avec lui, justement le 2 août dernier, on savait seulement dans le fond le slogan des conservateurs. Mais je trouve ça vraiment important qu'on diffuse l'extrait parce que ça peut mettre la table pour mieux décortiquer les slogans des partis, puis ensuite de ça, ben mieux évidemment mieux les comprendre, mais aussi mieux les analyser, parce qu'évidemment le choix des mots, comme M. Saint-Arnaud l'a mentionné, est très important.
À tout de suite.
Au niveau des slogans, évidemment c'est très important d'avoir un slogan qui frappe l'imaginaire, mais le choix des mots est important aussi. Mm-hmm. Puis en quoi justement le slogan peut refléter ce qu'un parti va vouloir faire durant 4 ans?
Ouais, un slogan, c'est tout un travail, trouver un bon slogan. Un slogan, à quoi ça sert? Vous savez, un slogan, c'est un symbole. Hein? Un slogan, ça sert à résumer, ça sert à vulgariser, ça sert à synthétiser une tonne d'informations pour venir décrire, finalement, le plus rapidement possible le parti, l'organisation qui se présente. Le slogan, il va ici, d'une façon un peu détournée, va venir chercher à rejoindre à la fois la raison, la logique, mais l'émotion. Libre chez nous, des choses comme ça, ce sont des mots qui sont courts à dire, sont faciles à répéter, sont visibles sur une pancarte. Hein, vous savez, si sur une pancarte électorale, on avait une phrase complète, on serait incapable de la lire pendant qu'on conduit. Bon, donc, on va essayer de en dire beaucoup avec peu. comme on le fait avec une image. Donc finalement, le symbole, ça devient le slogan, ça devient aussi une espèce d'image de marque chez le parti politique. Comme on vend un produit, on va vendre le parti politique grâce à son slogan. Et au fil des années, on a vu différents slogans, parfois des slogans qui sont plus positifs, parfois des slogans qui sont plus négatifs, qui attaquent même d'autres partis politiques. Les slogans, ils vont servir finalement à synthétiser un message en peu de mots, puis à rejoindre des gens qui vont pas nécessairement aller, par exemple, consulter un programme politique, les plateformes des partis politiques.
À rallier justement les gens à une cause, là, un projet, un but. Là,
de façon assez simpliste, c'est ce qu'on va essayer de faire, oui.
C'était quand même intéressant d'en discuter. Puis comme on a vu à travers tout récemment, les partis ont proposé leur slogan. Il y en a des plus frappants que d'autres, il y en a des plus longs que d'autres. C'est des techniques de communication persuasive différentes que les partis ont décidé de prendre. Donc, je ne sais pas si tu voulais nous en glisser un mot, Marco, sur un slogan particulier qui t'a un peu marqué ou bien quoi que ce soit. Là.
Bon, on va faire le tour là, brièvement là, de tous les partis. Bon, évidemment, la CAQ est « Continuons ». Bon,
simple et efficace.
Simple et efficace, ça veut tout dire. On veut continuer ce qu'on a fait pendant 4 ans. On veut continuer à faire avancer nos choses. Puis après ça, on peut décliner beaucoup de promesses. Là. Continuons à, puis après ça, décliner avec une promesse. Donc, vraiment, là, c'est simple et efficace. Là. Ça peut même rappeler un peu les slogans qu'on avait sur l'aide de Monsieur Duplessis. Là. On continuait, là, donc des trucs comme ça.
On peut continuer sur le slogan du Parti conservateur du Québec, libre chez nous. Un beau clin d'œil de notre histoire québécoise, bien marqué en fait là, dans un contexte selon la vision du Parti conservateur du Québec.
Oui, exactement, mais ça veut tout dire. Là, évidemment, dans ce slogan-là, avec libre chez nous, là, on sait de quoi qu'on va parler. On va parler de liberté individuelle. On le sait. Puis évidemment, comme tu l'as mentionné, c'est un clin d'œil historique au maître chez nous, de M. Jean Lesage, là, qui avait été très puissant à l'époque. Donc, libre chez nous, ça veut tout dire. Comme M. Saint-Arnaud l'avait dit, il faut qu'un slogan, on soit capable d'avoir une image, puis que ça donne le goût d'aller consulter la plateforme du parti politique. Puis aussi, il faut que ça traduise un peu de la volonté du parti. Puis là, avec libre chez nous, on le fait totalement.
Sinon, avec Québec solidaire, le slogan « Changer d'air », un jeu de mots assez clair qui peut aller dans diverses directions, quand même intéressant, notamment avec le clin d'œil sur changer d'air, avec l'aspect environnement, dans le contexte de la fonderie Horn à l'heure actuelle. On dirait que c'était quasiment arrangé avec le gars des vues, là, si vous me permettez l'expression. Mais il dit plus que ça, là, ce slogan-là.
Oh oui, évidemment, changer d'air, on veut faire mention avec la flèche entre le D et le E pour remplacer l'apostrophe, là. C'est une flèche pour changer d'air, là, littéralement d'air. Là, on veut passer d'une air qui est plus vers un parti.
Un renouveau.
Un renouveau, c'est ça qu'on veut. C'est ça que ça veut dire, puis ça veut tout dire. Là. Vraiment, on vient chercher aussi les jeunes. On veut changer d'air. On veut un gouvernement qui peut être plus axé vers les préoccupations des jeunes. On change d'air complètement. Donc, c'est vraiment efficace. Ça veut tout dire. Puis, ben évidemment, pour Québec solidaire, là, c'est très efficace. Là.
Celui qui est un peu plus illustré, qui marque un petit peu plus par son illustration « Vote est vrai » du Parti libéral du Québec. Quand on dit « Vote est vrai » avec le « V » de « voter » qu'on l'inscrit avec le logo du parti, le « L », dans le fond, un peu de côté, comme dans un bulletin de vote.
Moi, ça ressemble à un crochet de bulletin de vote.
Exactement.
Là. Mais le slogan est encore plus long. « Vote est vrai », c'est ce qu'on voit en gros. Là. Mais c'est « Vote est vrai »,« Vote est vrai »,« Vrai enjeu »,« Vraie solution ». Honnêtement, slogan beaucoup trop long. Ça veut pas dire grand-chose. Voter vrai, là, qu'est-ce qu'on veut dire par vrai? Des vrais enjeux. Ça me parle un peu, mais ça me parle pas tant. Puis vraie solution. Vraiment, là, je vois pas en quoi que ça se traduit dans la tradition du Parti libéral d'avoir un slogan comme ça. Le slogan traduit pas ce qu'on veut faire pendant 4 ans, là, à part pour aller voter. Là, je vois pas l'intérêt ici pour le slogan là, qui est quand même trop long. Puis qui veut pas dire grand chose aussi pour le parti, vers aussi la dimension puis qui veut s'en aller.
Sinon, finalement, avec le Parti québécois, un slogan long aussi, les deux partis. C'est ça, donc un slogan assez long, si tu veux nous le décortiquer, Marco.
Oui, le slogan qui est le Québec qui s'assume, point. Ensuite, pour vrai, point. Je trouve que le slogan est beaucoup trop long. Moi, j'aurais été sonnant avec le Québec qui s'assume. Comme ça, on aurait pu, après ça, décliner le Québec qui s'assume en environnement, le Québec qui s'assume en tant que nation, le Québec qui s'assume en matière de langue française. J'aurais vraiment été juste avec ça. Puis, ben évidemment, ben ça veut aussi dire le Québec qui s'assume. Là, on parle aussi ben de nationalisme, de souveraineté, le Québec qui s'assume dans le monde. Donc, j'aurais vraiment gardé cette branche-là du slogan. Le « pour vrai » est vraiment de trop. Le Québec qui s'assume pour vrai, pourquoi, tu sais. Je sais pas si tu comprends un peu mon interrogation.
Je comprends, c'est une technique que même moi, j'ai un pas que j'ai de la misère à comprendre, mais que en fait, ça m'a surpris. Mais c'est tout de même un slogan qui marque, selon moi, la vision du Parti québécois. Le Québec s'assume, surtout dans un contexte où est-ce que, selon plusieurs, la souveraineté au Québec est en déclin, le déclin de la langue française aussi. Donc, le PQ se positionne comme... on est un parti qui s'assume au Québec. Il faut continuer dans cette voie-là. Donc, je trouvais le clin d'œil curieux et le clin d'œil quand même intéressant. Mais bon, c'est vrai que le slogan est plus long là, qu'à l'habitude.
Oui, effectivement. Puis je crois qu'on aurait dû y aller avec le Québec qui s'assume seulement, en enlève le pour vrai. Parce que là, ça veut peut-être présumer, on s'assume pour vrai. Donc, mais est-ce que les autres moutures du Parti québécois dans le passé s'assumaient aussi pour vrai? Bon, tu sais, on peut se poser des questions là, par rapport à ça. Là, mais moi, c'est des interrogations que j'ai quand que j'ai vu le slogan. Mais sinon, ça fait le tour pour les cinq principaux partis politiques au niveau des slogans. Quelque chose aussi qu'on voulait aborder brièvement, c'est les pancartes électorales.
Très rapidement, puisque beaucoup se posent la question, est-ce que est-ce vraiment pertinent en 2022, dans l'ère numérique, d'avoir des pancartes électorales en période d'élection? Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout anecdotique, parce que si on se fie aux études qu'on a sous la main, OK, est-ce que ça influence la participation citoyenne de mettre des pancartes partout pour qu'on voit les candidats ou candidates? Les citoyens et citoyennes vont le voir qu'on est en campagne électorale, puis c'est déjà un bon pas vers l'avant, si je peux me permettre l'expression. Mais malgré tout, selon Jonathan Malloy, un professeur à l'Université Carleton, c'est difficile de faire une corrélation entre c'est bon, ça augmente la participation électorale de mettre plein de pancartes. Puisque les études sont peu nombreuses, puisque c'est difficile à chiffrer, c'est surtout un indicateur. Ça peut être un indicateur, la position de pancarte sur nos poteaux de téléphone, mais c'est quand même difficile à chiffrer. C'est très anecdotique, c'est très spécifique. Bref, c'est un peu difficile de manière scientifique d'aller de l'avant avec ça. Toutefois, il y a quand même une étude qui est venue me chercher, en fait. En fait, c'est Monsieur Bratt, un enseignant à l'Université Mont-Royal de Calgary, avec son équipe, qui ont étudié trois élections partielles en Alberta en 2014 et dans la circonscription de Calgary Centre lors de l'élection fédérale de 2015. Ils ont compté toutes les pancartes sur la pelouse des maisons des citoyens et citoyennes de ces trois circonscriptions-là. Dans trois des quatre cas, l'ordre d'arrivée et le vainqueur ont été prédits avec précision en fonction du nombre de pancartes en faveur d'un candidat ou un autre. Dans le quatrième cas, les panneaux n'ont pas été un bon indicateur, mais le quatrième cas, c'était le cas où est-ce qu'il y avait le moins de pancartes tout court. Donc, plus selon l'étude, plus vous voyez le panneau sur les pelouses, plus le taux de participation est élevé. Et si un parti mène en nombre de panneaux, par exemple, il y a plus de chances de remporter l'élection. Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Ça a été mis de l'avant, ça a été dit.
Mais j'imagine aussi que le fait qu'il y ait la présence de pancartes électorales sur les propriétés privées des gens, c'est parce qu'ils sont intéressés par le parti, puis qu'ils vont sûrement aussi aller voter en faveur de ce parti-là aussi.
Évidemment, et c'est des contextes pas transférables, puisqu'au Québec, les pancartes électorales sont vraiment différentes des autres provinces du Canada. Si on prend l'exemple du Canada, il y en a plus sur nos panneaux de téléphone et il y en a moins sur les maisons des gens. Tandis qu'ailleurs au Canada, c'est vraiment réputé d'avoir des pancartes de candidats sur nos pelouses. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je voulais vous le mentionner que oui, pour certaines personnes, c'est important des pancartes en campagne électorale. C'est pour ça que pendant 36 jours, nous allons voir les visages de nos candidats sur nos pelouses et sur nos poteaux de téléphone. c'est tout pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la semaine prochaine. On vous le répète, c'est un format de 2 heures qui commence pour la campagne électorale. Ça risque d'être super intéressant. Et on souhaite que vous soyez avec nous dès la semaine prochaine, où est-ce qu'on va essayer de vous analyser en profondeur la campagne électorale 2022 au Québec. Et merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'était des attachés de presse sur CFAQ 88.3. Ça part ici.